guerre totale. Parce que nous sommes de tous les pays d'Europe celui où les jeunes fument le plus de cannabis. L'idéologie héritée de 68, qui a consisté à supprimer l'interdit social sur la drogue, est une catastrophe. La notion même de drogue douce est une absurdité. Si c'est une drogue, elle n'est pas douce.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
J'ai de la bonne herbe pour vous, hein ? La meilleure qualité de toute la région.
Cannabis Circus.
Si je suis élu président de la République, je ne légaliserai pas la drogue, je la combattrai.
Radio Canu.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2 MHz. Et ce soir, 8 décembre, difficile de circuler.
On est arrivé quand même.
Nous faisons quand même notre célèbre émission Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs.
Par contre après, chasseur de son, c'est pas gagné quoi.
Gagné pour chasseur de son. Au sommaire ce soir, plein de petites choses. Sinon, donc, on va parler un peu de tests au volant. On va parler des tests salivaires, voilà. Et puis rappeler quelques petites choses de l'enquête Sam. On parlera un petit peu de Taubira, qui est devenue très prudente depuis qu'elle est ministre de la Justice le sujet du cannabis. On parlera aussi d'un distinguo qu'il faut bien distinguer, thérapeutique et récréatif. Deux choses différentes, deux actions différentes, deux batailles différentes, un peu liées, pas forcément, voilà. Après, on ira faire un petit tour à l'étranger, au Mexique et en Uruguay, où les choses évoluent, hein, puis chaque chose a ses conséquences. Donc la légalisation dans deux, puis dans cinq États aux États-Unis, ça change la donne là-bas. Donc il y a plein d'implications. On fouillera un petit peu ça, c'est intéressant. Et puis en Uruguay, Valdés a été réélu, on va dire.
Il a été élu une deuxième fois, mais pas consécutivement, parce qu'entre temps il y a eu Mujica.
Pepe Mujica, donc bon, ils sont du même camp.
Ouais.
Même, Valdés a une loi.
Vázquez.
Valdés.
Vázquez.
Ouais. Bon, bref, il a une loi complexe devant lui à mettre en place, bien que ça soit un combattant ardu de la.
Le lobby tabac.
Du
tabac. Du tabac, voilà.
Voilà. Il s'est battu pour que on prenne des mesures draconiennes pour que ça baisse. Voilà. Et puis, on finira enfin avec, peut-être si on a le temps, avec Rock, un grand interview de Rock. On en a parlé il y a une vingtaine d'années, quand il avait fait son rapport sous Kouchner.
Ouais, c'était en 98, ça fait pas 20 ans quand même. Pas tout à fait, mais en tout cas.
Pas tout à fait, mais presque.
Voilà. Alors, l'article dont on va parler n'est pas nouveau, en fait. C'est une discussion qui date de 2010. Voilà. Mais, tout ce qu'il dit est tellement d'actualité que, malheureusement, il faut continuer à en parler, hein. Quand il dit ça en 2010, c'était Sarkozy qui était président. Quand il parle du gouvernement, tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est Hollande. C'est que même avec un nouveau président, c'est toujours pareil. Et donc, ces propos nous sont toujours d'actualité.
Voilà. Et c'est très intéressant de revenir un petit peu sur certains historiques. Voilà. Allez, on part un petit peu en musique. Quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on...
Pour l'instant, ça va.
Maintenant qu'on
dit toutes ces choses, qu'on n'a plus de tête, qu'on n'a plus qu'à dépasser la dose, on sera fini toute cette prose, on parlera plus qu'en balbutiant, qu'en produisant les saloperies.
C'est donc on vient de s'écouter Little Rabbits, la grande musique.
Voilà. Voilà.
Un titre toujours des CD.
Des compilations.
Des compilations.
Des artistes pour le cirque.
Voilà, Tolérance double zéro. Voilà. Et donc ça, c'est la deuxième phase du deuxième CD.
Voilà.
Ce qu'on s'écoute ce soir.
Des CD collector. Hein. Parce qu'il n'y en a plus. Et des morceaux inédits, qui à mon avis sont pas repris par les artistes dans leurs concerts. Voilà, donc vous ne pouvez les écouter en fait que de 21h à 22h, le lundi, dans Cannabis Circus, voilà. Voilà, voilà. Donc, alors,
Alors, on va partir sur les tests salivaires.
Voilà.
Encore.
Voilà, les tests salivaires. Donc, il y en a déjà hein, qui existent, hein, qui sont utilisés par les forces de l'ordre depuis 2005. Hein. Mm-hmm. Mais il se trouve que ces tests qui étaient utilisés jusqu'ici étaient relativement peu fiables et qu'ils devaient être confirmés par un test sanguin pour donner la possibilité à la justice de vous poursuivre devant les tribunaux. Et du coup, toute cette procédure, en fait, cette usine à gaz, ça a un prix. Et ce que veulent faire aujourd'hui les forces de l'ordre, en fait, enfin les pouvoirs publics, c'est mettre en point un test salivaire beaucoup plus fiable. Donc là, il y a des essais qui sont en cours. Suite à ces essais, ils pensent pouvoir changer le code de la route. Et au lieu de faire la prise de sang, ben, ça sera qu'un test salivaire qui...
Qui fera foi
devant la justice et qui pourra justement malheureusement permettre des poursuivre contre les des poursuites contre les contrevenants qui auraient consommé du cannabis au volant. Voilà. Alors dit comme ça, ça paraît simple, mais c'est pas si simple. Même si là déjà dans l'article on a quand même quelques précisions parce qu'on nous dit que ça dure, alors je crois que c'est pas dans l'article de l'Alsace, c'est plutôt dans celui de Sud-Ouest, me semble-t-il. Bref, je retrouve pas, mais
ouais, enfin, bon, on nous dit que ça dure 4 à 6 heures. C'est qu'ils ont mis ça.
8-10 heures, voilà. 8-10 heures.
Ils ont mis ceci en place en grande pompe avec le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, qui était sur place pour faire ses premiers tests.
Voilà, et avec bien évidemment information mensongère à l'appui. Bien évidemment.
Bien évidemment.
Alors c'est pas dans l'article là, mais on en a entendu parler pas mal depuis le mois de septembre. Je pense que vous en avez aussi entendu parler. Pourquoi ? Parce que ben justement, on a entendu que l'usage de drogue au volant était responsable de 15% des accidents de la route, et que ces dernières années, il y avait une augmentation de je sais pas combien de pourcents du nombre d'accidents mortels sur la route dus à la consommation de drogue, sans dire de quelle drogue il s'agit.
Ça doit être de l'alcool.
Ah bah c'est pas dit comme ça, et c'est en tout cas pas ce qu'ils veulent qu'on pense. On ne parle pas on ne sait pas de quel produit il s'agit, et puis il y a eu quelques reportages qui ont été faits également, et qui tapent à bras raccourcis sur l'usage du cannabis. Alors il faut être un peu connaisseur du sujet pour comprendre de quoi on veut bien parler, parce que dans ces reportages, il y en a eu un certain nombre, hein, que ce soit notamment à la télévision, hein, bien entendu. Il y a eu dans ces reportages des personnalités qui connaissent très bien le sujet. Je pense notamment, alors c'est le dernier que j'ai vu, c'était Ben Yamina, qui est un psychiatre addictologue, qui est un fervent partisan de la réduction des risques et d'un changement de la loi. Mais quand vous écoutez Ben Yamina, ben comme toujours à la télé, on coupe tout et on garde que ce qu'on veut bien diffuser. Et alors bon, quand même, Ben Yamina, ce qu'on lui a laissé dire, c'était que ce qui était dangereux au volant, c'était le mélange des substances. Sans préciser lesquelles, mais en tout cas, il a bien dit que c'était la polyconsommation, donc le mélange des substances qui pouvait être dangereux. Mais après, bon, les journalistes reprennent la parole et disent que, ce qui est dangereux surtout, c'est le cannabis. Voilà. Pour planter un peu le décor. Et là, donc, deux articles dernièrement, il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu d'autres, mais bon, ceux-là, c'est les derniers, donc celui du 7 décembre de l'Alsace.fr et du 6 décembre de sudouest.fr. Donc, dans celui de l'Alsace, là, on nous sort justement que le ministre de l'Intérieur était présent sur les lieux pour faire les premières expérimentations des nouveaux tests. Voilà. Je sais pas si tu voulais.
Non.
Bon, je pensais pas lire l'article non plus en particulier.
Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce qui m'a étonné, c'est l'introduction du Sud-Ouest. C'est la consommation d'alcool n'est pas le seul danger au volant. Voilà, c'est
oui.
Pas mal, quoi. C'est une bonne introduction. Oui, et alors ?
Donc ?
Il y a plein d'autres dangers au volant. Il y a tous les benzodiazépines.
Oui, puis même sans parler des drogues, hein, l'usage du portable au volant, en fait.
Voilà, bon, tout à fait.
Je parle du portable parce qu'on va en reparler dans quelques minutes.
D'accord,
vous allez savoir
voilà,
pourquoi.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est différentes choses pour ça. Donc, voilà, donc, sinon, sur l'article, pas grand-chose à dire. Hein, on va voir si ces tests donc, sont plus fiables que les anciens. Jusqu'à maintenant, c'était pas très, 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 très probant. D'où l'obligation de passer par la case... hôpital et de faire la piqûre là-bas. Voilà. Ce que nos politiques n'aiment pas, est-ce que la police n'aime pas, parce que ça leur fait perdre beaucoup de temps.
Et puis ça coûte très cher.
Voilà. Surtout quand on connaît les réels effets sur l'accidentologie de la route, parce que c'est plus quelque chose de. Comment dire. Le cannabis au volant et la dangerosité du cannabis au volant, c'est plus un chiffon rouge qu'on agite plus qu'une réelle réalité.
Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté. C'est pour ça que j'ai rajouté dans la revue de presse un extrait des recherches scientifiques qui sont disponibles telles qu'elles sont d'ailleurs ce soir sur notre papier sur le site internet du Cirque Lyon. Et voilà. Donc où aller ?
Aussi sur le site de l'OFDT, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Tout à fait. Voilà, ce que je voulais dire d'autre, c'est que dans cet article de Sud-Ouest, ben là, il y a un bon chiffre bien mensonger, si on le décortique pas un peu. 21% des accidents mortels sont liés à la consommation de drogue. Dit comme ça, ça fait peur. Et c'est l'objectif. Hein, c'est bien l'objectif, c'est bien de faire peur. On nous explique aussi qu'il y a jusqu'à présent pas eu suffisamment de tests salivaires pour mesurer la consommation de drogue. Et on nous dit encore que ben finalement les usagers de drogue sont des privilégiés des tests parce qu'il n'y en a pas eu suffisamment fait contre eux. Vous vous rendez pas compte, en 2013, ça c'est dans l'Alsace, on nous dit qu'il y aurait eu 11 millions de tests d'alcoolémie pratiqués. Et qu'il y aurait eu seulement 144 000 contrôles de stupéfiants, et que sur les 144 000, il y en aurait eu 48 000 positifs. Donc, on nous dit qu'il y a encore d'énormes marges de progrès. Il faut voir ce qu'ils font en Belgique et en Espagne, qui montrent qui ont fait toutes ces expérimentations. Autre information également que je pense importante et qu'il faut dire à l'antenne. On nous explique que grâce à ce nouveau test, il est possible, enfin, c'est une méthode développée qui permet d'atteindre des seuils de sensibilité extrêmement bas. Ainsi, les petits malins qui mettraient des produits masquants dans la bouche, eh ben, malheureusement, avec ces nouveaux tests, ça devrait pas passer. On doit pouvoir adapter les modalités de prélèvement pour se prémunir de toutes les tricheries. Voilà. Je vois pas en quoi il y a tricherie, hein. C'est juste, c'est pas une tricherie, hein, de vouloir masquer ce qu'on a bu, mangé. Au contraire, il faut absolument tricher, même je dirais, vu le niveau de répression et de persécution limite qu'on subit. Alors, par contre, malheureusement, il y a des chances que les auditeurs et auditrices privilégiés entre guillemets par ces tests ne puissent pas nous entendre ce soir, à moins qu'ils nous écoutent sur Internet. Puisqu'il y a quand même 8 départements pilotes jusqu'au 1er juin 2015, et que Radio Canu n'émet pas dans les Alpes maritimes, ni en Dordogne, ni en Gironde, ni dans l'île Ille-et-Vilaine, ni dans la Loire-Atlantique, encore moins en Moselle, dans le Nord, ou encore en Haute-Savoie. On n'est pas loin, la Haute-Savoie, mais en tout cas, 102.2 FM ne va pas jusque... En Haute-Savoie, par contre, bon, sur Internet, c'est possible. On nous explique une fois de plus, alors ça je l'ai déjà dit, qu'une fois généralisé et après modification du code de la route, ce nouveau protocole donc de test salivaire permettra une augmentation automatique des contrôles de stupéfiants sur les automobilistes. Voilà un peu moi ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Non, non.
D'un point de vue technique.
Non, je pense qu'on va pouvoir passer aux remarques scientifiques de l'INSERM.
De l'INRET.
De l'INRET,
enfin,
pardon.
De l'IFSTAR. De l'IFSTAR. Puisqu'en fait, de quoi on vous parle là par rapport à l'INRET, l'IFSTAR et tout, eh bien, c'est tout simplement l'étude SAM, stupéfiant et accident mortel de la circulation routière, qui avait été une étude qui avait été commandée par Jospin à l'époque.
Tout à fait.
Qui a été rendu public en octobre 2005. au niveau des premiers résultats partiels. Et en 2011, l'OFDT et l'IFSTAR qui remplace l'INRETS, en 2011, donc, ont rendu public les éléments définitifs de l'étude. Alors, il faut savoir que cette étude en France, elle est quasi inconnue. Inconnue des pouvoirs publics, inconnue du grand public. A contrario, c'est une étude qui fait référence dans le monde entier. Voilà, au niveau de la communauté scientifique, c'est cette étude-là qui est l'étude la plus complète et qui sert à peu près partout dans le monde et qui est connue dans le monde entier, sauf en France. Donc, on a repris dans la revue de presse quelques éléments de conclusion de l'étude pour amener quand même des éléments d'information aux oreilles des auditeurs et auditrices qui, éventuellement, malheureusement, pour eux, pourraient être contrôlés. Et des fois, quand on a un peu des éléments à mettre en face des policiers qui vous contrôlent, ça peut aider. Après, si vous avez consommé de l'alcool, du cannabis et d'autres drogues, malheureusement, ça ne pourra pas vous aider. Ça, c'est certain. Voilà. Alors, je propose d'aller un peu dans le vif du, enfin, tout de suite, vas-y, droit au but, parce que donc plutôt à la fin en fait de l'extrait que j'ai marqué. Donc voilà, tout ça pour dire donc ce que dit l'étude. Toute dose non nulle confondue et après ajustement sur un ensemble de cofacteurs, le sur-risque de responsabilité associé à une alcoolémie non nulle est de l'ordre de 8,5. Voilà, ce que ça veut dire que si vous buvez de l'alcool, vous avez 8,5.
Si vous surconsommez de l'alcool.
Surconsommez, au-delà du seuil légal, excuse-moi. Si vous consommez, donc surconsommez de l'alcool, vous avez 8,5 fois plus de risque de provoquer ou d'être impliqué dans un accident mortel. Pour le cannabis, c'est 1,8. Donc je répète, l'alcool, si vous dépassez la dose légale autorisée...
Non, associé à une alcoolémie non nulle, t'as raison, c'est même pas la dose légale, c'est non nulle.
Non nulle.
Non nulle. Donc juste un verre, on est voilà. En dessous de la limite.
Oui, oui. Oui, non, je m'étais pas trompé, excuse-moi. Mais
t'étais pas trompé au début, pardon.
On s'induit mutuellement en erreur, ouais. Donc voilà, l'alcool, donc non nulle, c'est 8,5. Le sur-risque de responsabilité associé au cannabis est de l'ordre de 1,8. C'est-à-dire que vous êtes moins dangereux au volant lorsque vous ne consommez que du cannabis, qui est illégal, que si vous consommez de l'alcool, même si vous êtes dans les seuils légaux, en fait. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, et qui est quand même très important, c'est que la fraction de responsabilité d'accident mortel attribuable à une conduite sous l'emprise du cannabis est estimée donc à 4,3%, celle attribuable à une alcoolémie positive à 31,5%. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est véritablement dangereux et qui est repris dans l'étude, c'est le mélange alcool-cannabis, puisque là, on a le risque d'être impliqué dans un accident mortel ou d'être responsable d'un accident mortel est de 15%.
Voilà. Sachant qu'à ces facteurs, le fait d'être jeune multiplie par deux, le fait d'avoir eu son permis depuis moins de 6 ans, moins de 6 mois, ouais. Augmente aussi, est un facteur multiplié par deux. Donc si on met ces quatre facteurs associés, c'est-à-dire être un jeune ayant juste eu le permis, ayant un peu trop bu, ayant en plus fumé, on arrive à... un facteur de risque multiplié par 43 ou 40, plus de 40, quoi.
Voilà. Donc, par contre, ce qui est vrai quand même, c'est pour ça que c'est toujours compliqué quand on voit les articles qui mélangent à peu près tout, ben, c'est quand même très, très imprécis. Ce qui est clair, qui est dangereux, quand vous prenez le volant, c'est si vous êtes dans la situation où vous avez mélangé plusieurs produits. Là, effectivement, le sur-risque est quand même élevé. Par contre, prétendre que c'est le cannabis qui rend les choses dangereuses, c'est faux. C'est tout simplement archi faux. Faut savoir quand même que l'alcool fait à peu près 2200 victimes par an. le cannabis ferait entre 175 et 190 décès à 30 jours. Des chiffres en fait qui sont à peu près comparables à une un taux d'accident. Alors, ce que disait Laumont, hein, qui est l'un des scientifiques qui a dirigé l'étude entre 2000 et 2005, ce que disait Laumont, c'est que en fait, la dangerosité du cannabis seul, c'est à peu près comparable à, par exemple, un automobiliste qui triture son poste, son autoradio en fait, ou quelqu'un qui utilise son portable dans la voiture, à peu près.
Le portable est
même plus dangereux. C'est un peu plus dangereux, mais bon, c'est des chiffres qui sont assez proches. Parce que ce qu'il expliquait, Laumont, c'est que c'est finalement très difficile de quantifier de manière certaine pour le cannabis, la responsabilité et le fait que ça puisse vraiment tuer des gens ou être impliqué dans la mort de personnes au volant. Voilà, donc c'est compliqué.
Par contre, il y a un élément qu'ils ont amené, justement, quand tu dis que c'est une étude internationalement reconnue, c'est un des éléments qu'il a amené, c'est qu'il y a un effet seuil.
Tout à fait.
C'est-à-dire que plus on consomme du cannabis, plus on est de moins en moins apte à conduire. Exactement pareil que pour l'alcool, hein. Plus on consomme d'alcool, moins on est apte à conduire.
C'était pas si simple. Je me rappelle bien que on lui avait posé la question et il avait expliqué que c'était loin d'être aussi évident, quoi.
C'est loin d'être aussi évident, mais a priori, ils ont quand même
l'effet seuil, oui, l'effet dose, ils ont trouvé.
Ils pensent qu'il y a un effet dose. Par contre, ils sont incapables de définir le seuil pour l'instant.
Oui. Voilà, par contre, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Donc voilà, toutes ces infos, encore une fois, vous pouvez les retrouver sur le site internet du Cercle Lyon. Il y a une rubrique tract dossier. Vous allez dans dossier, le cannabis au volant. Le cirque a fait un petit travail là-dessus il y a quelques années et vous explique, hein, tout simplement que tous ces tests et tout ça, c'est pas en fait pour améliorer la sécurité routière. L'objectif, c'est tout simplement de choper des fumeurs, de plus en plus de fumeurs. Si on n'arrive pas dans la rue comme ça, ben on va mettre en place les tests salivaires. Ça permettra d'en choper encore plus. Les cibles privilégiées pour ces tests, ce sont les jeunes. Les jeunes issus des quartiers principalement, et les jeunes avec un look, donc piercing, dreadlocks, tatouage, voilà tout ça, parce que c'est la police, hein, qui estime en vous regardant de loin arriver et qui voit le look que vous avez au volant, c'est eux qui peuvent décider de vous faire arrêter, de vous faire passer le test. Donc ils ont pas 36 solutions et c'est du délit de faciès caractérisé, tout simplement. Donc voilà, faut se méfier. Faut se méfier et puis voilà, il faut, comme c'est un test salivaire, il faut manger avant de prendre le volant, éviter de fumer au volant parce que là vous êtes sûr d'y passer. Même si ces tests sont présentés comme étant beaucoup plus fiables, je pense qu'il y a quand même moyen de masquer tout ça. Encore, c'est sûr, c'est sans doute beaucoup plus difficile, mais voilà, au lieu de prendre le volant une demi-heure avant, au lieu de manger ou de boire quelque chose une demi-heure avant de prendre le volant et après avoir fumé, il vaut peut-être mieux le faire une heure et demie avant. Voilà. Donc, méfiance. Voilà un peu tout ce qu'on voulait dire au sujet des tests salivaires, des nouveaux tests salivaires. Et puis, si vous avez des ennuis et que la police vous enquiquine, eh ben, contactez le cirque. On connaît des avocats qui devraient pouvoir vous défendre.
Ouais, 06 11 53 10 07.
Voilà.
06 11 53 10 07.
Revoilà. Musique.
Mani Umeta Kuyase.
Et oui, donc on vient de s'écouter I Like Tribe, si tu préfères.
Indian Trance.
Exact. Voilà,
la trance indienne. C'était sympa. Bon, voilà, après l'alcool au volant et... l'alcool au volant, drogue la plus meurtrière en France, avant toutes les autres, hein. Ça, on l'a peut-être pas dit suffisamment. Bon, voilà, c'était les tests salivaires, pardon. On va s'intéresser un peu à Madame Taubira.
Ouais, avec un article qui est assez marrant, quoi. C'est un article du Figaro qui raconte Taubira sur le plateau du Petit Journal.
La semaine dernière.
Voilà, donc quand même.
Lundi dernier, jour de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et qui était invité donc sur Canal, voilà. Et qui a assuré qu'elle n'était pas une militante de la dépénalisation ou la menteuse, parce que nous on sait que c'est pas vrai. Mais en tout cas, elle s'étonne que le débat ne puisse pas avoir lieu. Hein, un débat verrouillé à double, triple tour par un certain Manuel Valls de son nom, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur. Mais bon, maintenant qu'il est Premier ministre, il est verrouillé au moins à 5 tours. Mmh. Et voilà, en tout cas, sur le plateau du Petit Journal, Christiane Taubira a été interrogée sur cette question. Alors, le Petit Journal, c'est celui avec Yann Barthès, c'est ça?
Oui.
Ouais. Ah non, c'était pas...
C'est le Petit, ouais.
Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est encore mieux. Barthès, bon, ça peut être pas mal des fois, il pose des questions lui au moins, et puis il montre des trucs que les autres montrent pas, donc bon, sans en faire un héros non plus, hein.
Ouais, il regarde les choses par le petit bout de la lorgnette.
Oui, des fois c'est pas mal, ouais. Des fois c'est même très surprenant ce qu'il arrive à montrer, et que ça passe en tout cas, vraiment. C'est la partie politique, Canal Plus veut plus s'occuper de ça dans la grande partie, le journal... voilà, maintenant c'est Yann Barthès qui s'en occupe. Donc voilà, elle était invitée et en tout cas, elle a dit donc publiquement, voilà, ce qui me choque, c'est qu'on ne puisse pas en discuter dans une société comme la France. Ce qui me choque profondément, on ne peut pas être indifférent au sujet des milliers de jeunes qui en consomment. Alors elle prend pas position sur le fond du débat, suivant le vieil adage de Chevènement, hein, qui disait un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Donc elle en parle sans vouloir en parler, donc elle veut pas trop la fermer, mais elle veut pas démissionner non plus, hein. Donc elle dit comme ça, voilà, moi je viens de Guyane, c'est sur la route des cartels et j'ai vu les ravages de la drogue, témoigne-t-elle. Je ne suis pas une militante de la dépénalisation, mais elle déplore de ne savoir exactement les effets de ces substances. Oh, la menteuse deux fois, hein. J'ai vu des ravages terribles chez moi. Je me suis beaucoup intéressé à cela, à savoir si les drogues douces mènent inévitablement aux drogues dures. Il y a des scientifiques qui pensent que oui, d'autres qui disent que non. Je n'ai pas de compétences pour le faire, et je ne dirai pas que je suis pour ou contre. Je n'ai pas les idées suffisamment claires. La menteuse trois fois. Hein. Ah, pourquoi je dis ça? Ben parce qu'à une époque, Madame Taubira, elle aimait bien le cirque. Elle nous connaît bien, hein, d'ailleurs.
Oui, tout
elle
à fait.
Très bien. Dans les années 90, à une époque où elle envisageait pas une seconde de devenir ministre, à mon avis, elle s'était prononcée
pour la légalisation
contrôlée du cannabis.
C'était son mouvement, d'ailleurs, puisqu'elle était...
radicaux de gauche.
Voilà, tout à fait. C'était prononcée pour.
Voilà.
D'ailleurs, Bailey,
Jean-Michel Bailey, oui, qui a été
du même mouvement, était pour lors des primaires socialistes, si vous vous en rappelez.
Voilà. Alors, maintenant, voilà ce qu'en dit un peu le Figaro. Hein. Si Christiane Taubira est aussi prudente sur ce sujet, c'est aussi parce que ce sujet a déjà valu bien des polémiques, notamment à son ancien collègue Vincent Peillon. Quelques mois après son arrivée au ministère de l'Éducation nationale et qui disait « On peut lutter par les moyens de la répression, je suis absolument pour, mais en même temps, je vois que les résultats ne sont pas très efficaces », avait-il déclaré. Cette question de la dépénalisation est posé et je souhaite que l'on puisse avancer sereinement. Voilà ce qu'il avait dit à l'époque, avant que Jean-Marc Ayrault ne le lui tape sur les doigts et le recadre très vite. Ce sujet, il empoisonne régulièrement le chef de l'État depuis au moins 2 ans et demi. Hollande, il a toujours défendu une seule et même position. Ça, c'est pas vrai. Hein. On sait que un an avant les primaires, il avait dit, François Hollande, que c'était un problème d'ampleur plutôt transnationale, internationale, et qu'en tout cas, s'il y avait un truc à changer, ça devrait se faire au niveau européen. Bon, là, le Figaro n'en reparle pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'ils disent là au Figaro, que Hollande donc ne souhaite pas changer la législation actuelle. Quelques jours avant les élections présidentielles en 2012, c'est Rebsamen, maire de Dijon, qui s'aventurait lui-même sur ce terrain, avant d'être désavoué par Hollande lui-même. Voilà, Rebsamen avait proposé à Hollande que l'on transforme le délit de consommation de cannabis en contravention. Proposition que fait l'UMP, ou un rapporteur de l'UMP dans le dernier rapport d'analyse rendu public sur la question de l'usage de drogue et de la politique publique, les politiques publiques menées sur les drogues. Alors, l'UMP proposait la contravention, la députée socialiste plutôt une légalisation contrôlée, un peu dans la ligne qu'avait proposé Vaillant. En tout cas, même la contraventionnalisation, Hollande n'en veut pas. Et enfin, pour finir, c'est Cécile Duflot, à l'époque ministre du Logement, qui avait dit tout simplement que l'objectif est double. Il est de faire baisser le trafic, de supprimer le trafic et la violence, notamment d'avoir une politique de santé publique. Voilà un peu ce que disait Cécile Duflot, dans la droite ligne aussi de ce que disent les Verts hein, depuis au moins une vingtaine d'années, sur la question des drogues et des politiques publiques à mener là-dessus. Voilà, donc Taubira,
elle y va doucement, hein, mais déjà elle dit qu'elle n'est pas contre, elle dit qu'elle est ni pour ni contre, c'est déjà avoué qu'on est pour.
Elle dit qu'elle est pour un débat.
Oui.
Mais elle dit qu'elle n'a pas d'avis et qu'elle n'a pas de connaissances scientifiques.
Oui.
Voilà.
Mais par contre, elle a un avis pas scientifique, mais judiciaire, moral. C'est le seul qu'elle n'a pas scientifique. Hein. Sinon, elle a tous les autres avis, je pense. C'est pour ça qu'elle n'est pas menteuse, elle est filoute. Hein. Bon.
Allez. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Si
allez, tu veux. On va se prendre la tête avec la Seine-Sicile, là. Qui nous pose une question fondamentale. Pourquoi doit-on distinguer le cannabis récréatif du cannabis médicinal? Donc c'est
Silent J.
Voilà.
Il faut savoir que sur le site de la Seine-Sicile, il y a plusieurs personnes qui écrivent différents articles sur le cannabis médical au niveau politique, au niveau du cannabis récréatif. Hein, voilà, il y a des gens qui sont pas forcément et heureusement d'ailleurs des journalistes. De l'institution journalistique, donc qui peuvent se permettre de dire des choses un peu plus intéressantes, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Donc lui, il disserte, je sais pas comment on peut dire autrement, hein, sur les combats et les lignes à mener au sujet du cannabis thérapeutique ou du cannabis récréatif, que peut-être que le thérapeutique, il est... il avance pas forcément très vite à cause justement du récréatif qui vient un peu lui marcher sur les plates-bandes, quoi.
Oui, c'est assez difficile hein, de savoir exactement l'un l'autre qui embête le plus l'autre. Hein. Est-ce que c'est le récréatif qui a un frein pour le médicinal? Est-ce que les militants doivent de voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est un texte complet. Alors est-ce qu'on se met à tout lire, mais ça risque d'être un peu compliqué, ou est-ce qu'on essaie d'en faire une exégèse? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce qui
exégèse. Exégèse-toi.
Ça va peut-être être difficile. Bon, en tout cas, ils disent qu'il n'y a aucun conflit entre les deux groupes, hein, entre les utilisateurs récréatifs et les autres.
Hein, non,
et...
qui peuvent parfois être les mêmes, d'ailleurs.
Voilà, mais il faut quand même faire la distinction entre les deux et de leur programme. Ça fait un siècle, en tout cas plus d'un siècle, que les patients luttent pour obtenir la légalisation du cannabis et des médicaments. Bon, ça, c'est un Américain, ce qu'on rappelle quand même qu'en France, ça fait moins d'un siècle, puisque jusqu'en
70, pardon.
Oui.
Qu'est-ce que tu voulais, de quoi? La loi de 70, oui.
Non, le cannabis était dans la pharmacopée jusque dans les années 50, 60.
Ouais. Oui.
Donc oui, ça fait 50 ans, ça fait pas un siècle. Voilà, c'était juste la petite nuance. C'est peut-être qu'aux États-Unis, c'est sorti plus vite de la pharmacopée. on cherche. Il y a pas assez d'études là-dessus. Les gens, beaucoup de gens qui ont des maladies comme le glaucome, des dépressions, des scléroses en plaques, etc., etc., essayent d'avoir du cannabis médicinal. Donc pour eux, c'est une histoire aussi de survie, quoi. C'est un médicament pur et simple. Donc c'est un petit peu difficile. Par contre, les seules études qu'on arrive vraiment à voir, c'est des trucs qui viennent des groupes pharmaceutiques et qui travaillent plus sur
les cannabinoïdes.
Sur des cannabinoïdes, non, mais je regardais un petit peu. En fait, eux, au niveau pharmaceutique, des groupes pharmaceutiques, ils ont plus travaillé sur le médicament sur le cannabis comme médicament pour des troubles psychiques, plus que pour les maladies dont on vient de parler, comme le glaucome, comme la sclérose en plaques, dont on sait que ça fait longtemps que le cannabis les soigne. Et pourtant, c'est un secret pour personne. Il y a plein de une quantité astronomique de preuves anecdotiques disponibles. On m'en a raconté, quoi, j'en ai même vu de certaines. Donc, on sait qu'il y a quand même des choses, mais il n'y a pas de grandes études lancées sur ce sujet. On n'en est que à quelque chose de.
Il y a quand même quelques grandes études lancées à ce sujet, donc. Une ou deux universités, en tout cas aux États-Unis.
Oui, mais ça arrive très lentement, quoi. Sur la sclérose en plaques, il n'y en a pas depuis le temps qu'on en parle, et on n'a pas vu de.
Alors, je ne sais pas si c'est là que tu voulais en venir, mais en tout cas, il y a des chercheurs qui sont prêts à faire des vraies grandes études d'ampleur pour connaître un peu tout ça. Et il y en a, ils se font virer des labos et des universités. Le cas du docteur Sisley, par exemple, n'est pas un unique exemple sur la recherche des cannabinoïdes aux États-Unis. Le docteur Susan Sisley de l'Université de l'Arizona a tout simplement été licencié en raison de son choix de thématique. Ce qui est quand même un exemple qui n'est pas unique, quoi. Alors c'est le professeur Sanjay Gupta qui est lui correspondant médical de CNN, qui est l'une des rares voix très influentes sur le cannabis à usage médical, qui avait expliqué un peu cette situation. Sanjay Gupta qui, je crois, il y a pas si longtemps, était un fervent prohibitionniste et qui a complètement changé d'avis. Donc voilà, en tout cas c'est difficile de faire de la recherche dans des labos aux États-Unis et dans des universités sur ce sujet parce que on peut se faire virer.
Voilà. Et la deuxième question qui reste plus dans le sujet de l'article, c'est est-ce que la recherche sur les cannabinoïdes est-elle freinée par le cannabis à usage récréatif? Alors la réponse est non, mais oui. Voilà, donc globalement non, mais un petit peu. Et entre autres, c'est surtout les utilisateurs de cannabis thérapeutique qui eux ne sont pas contents veulent se démarquer, voilà. Ils veulent se démarquer absolument du cannabis récréatif. Et l'argument, là je suis pas tout à fait d'accord, mais il est marrant, simplement parce qu'une tolérance excessive de la plante de cannabis dans son ensemble peut apporter une connotation négative à leur cause. Voilà, mais, oui, on a des, mais d'un autre côté, si le cannabis récréatif est légalisé, le cannabis thérapeutique le sera forcément aussi. En revanche, il ne sera sans doute pas remboursé par la sécurité sociale, ce qui, voilà, ce qui est un autre combat. Et c'est pour ça que pour eux, c'est quand même aussi très important que le cannabis soit considéré comme un médicament et soit reconnu surtout comme un médicament.
Alors, ce que dit l'auteur de l'article, en tout cas, est vrai à ce niveau-là, parce que nous-mêmes, en France, on s'en est rendu compte. Lorsque vous voulez organiser un petit débat, un colloque sur le cannabis thérapeutique, et que vous le faites depuis une association, par exemple, comme le cirque, en gros, vous pouvez pas faire participer à votre petit colloque des organisations comme UFC Med ou autres. Il y en a une autre, je me rappelle plus. Bon, principe actif, il y aurait pas de souci, parce que là, c'est des gens qui assument complètement. Mais en tout cas, c'est très difficile de réunir sous un même chapeau des partisans d'un changement de la loi pour le récréatif et le thérapeutique, à partir du moment où, en tout cas, ça vient des organisations qui sont plutôt connectées récréatives, en fait. Voilà, il y a une grande hostilité de la part de ces autres organisations. Ce qu'on peut comprendre, après la manière dont ils nous parlent et nous traitent, non, ça c'est pas tolérable, hein. Faut quand même le savoir. Quand même des gens qui se prennent pour je ne sais quoi, et ça fait pas avancer la cause, en plus. Ni d'un côté ni de l'autre. En tout cas en France, ça ne fait pas avancer la cause. Mm-mm. Voilà.
Voilà, ce qu'on voit, c'est que chaque utilisateur à titre récréatif de cannabis soutient le cannabis à usage médical. Ce qui n'est pas forcément vrai dans l'autre sens. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut dire. Après, est-ce que l'un et l'autre, voilà, sont antinomiques? Sans doute pas. Hein. C'est des choses différentes. L'un est du question du médical et l'autre, c'est un sujet, je dirais, une question de société. Hein. Voilà la. Et c'est là que et c'est là aussi qui conclut que pour le cannabis thérapeutique, c'est comme c'est une question de société, ça doit être débattu par les urnes et par un débat. Et pour le cannabis médical, bah là c'est pas un problème d'urne, c'est un problème de science. Et donc là c'est autre chose. Voilà, donc c'est réellement différent et. Voilà.
Juste pour terminer, une citation du professeur Raphaël Meshulam, hein, professeur israélien, qui a identifié et isolé le THC dans les années 60. Le cannabis à usage récréatif est une question de société. Si la population accepte son utilisation, très bien. Dans un pays démocratique, les questions de société sont résolues par la majorité de la population. Si la majorité de la population pense que le cannabis à usage récréatif doit être libre, alors ce sera le cas. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans un an, peut-être dans 10, mais cela finira par arriver. Le cannabis médical, c'est autre chose. Merci Monsieur Meshulam, mais on aimerait bien que vous n'aurez bien aimé que vous en disiez un peu plus. Parce que c'est autre chose, on sait pas ce que c'est, quoi.
C'est une question de science.
D'accord.
C'est pas une question démocratique. Ah. C'est une question médicale.
Donc merci Jacques Meshulam. Le cannabis médical, c'est autre chose, c'est une question de science. C'est toi qu'on aurait dû citer dès le départ.
Voilà, allez, on se fait une
dernière petite pause musicale.
Je sais pas laquelle, par contre.
Allez,
on envoie peut-être sur le Mexique.
Non, un tout petit peu de musique, parce que bon, on a parlé
allez,
beaucoup là.
Allez, un petit peu. Thank you. ouais, donc on vient de s'écouter Ekova, Oh Sweet Mal. Oh Sweet Mal. Bref. Allons faire un tour au Mexique.
Et aux États-Unis, enfin un peu les deux quoi.
Non, c'est les effets des politiques américaines sur le Mexique.
Bon, au niveau de la légalisation du cannabis.
Voilà, tout à fait. Voilà.
C'est un article de Slate.
Le titre, la légalisation du cannabis américain n'a pas affaibli les cartels de drogue mexicains. Mais elle a changé le commerce.
Oh.
Voilà, parce que bon, en fait, qu'est-ce que il y a deux États américains qui ont légalisé, cinq maintenant l'ont fait, donc mais deux s'est mis en place. Mais depuis, le prix de la marijuana mexicaine s'est effondré.
Normal.
Voilà, il a quasiment été diminué par deux en trois ans, de 60 à 90 dollars le kilo, c'est passé de 30 à 40 dollars le kilo. Voilà, parce que avant, la grande majorité d'herbes qui venaient aux États-Unis venaient du Mexique. Et c'est plus le cas maintenant. Il y a de plus en plus d'herbes fabriquées en local. Et les Américains la préfèrent d'autant plus qu'elle est deux à trois fois plus forte en THC que les produits mexicains. T'es pas d'accord?
Quand je lis ça, je suis toujours circonspect, quoi, parce que bon, bien évidemment, ils ont pas fait les tests pour mesurer la force du THC. Voilà, c'est...
Ouais, entre une herbe d'intérieur et une herbe d'extérieur, en général, il y a toujours du simple au double, quand même. Sachant que les herbes américaines...
Je ne suis pas d'accord.
Tu n'es point d'accord.
Non,
d'accord.
C'est pas vrai. Ça dépend des souches, quoi.
Ça dépend de la génétique, voilà. D'accord.
Et du climat et de la latitude, enfin, de plein de facteurs, en fait. Bref, allez, continuons.
Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant?
En fait,
du coup, les paysans, ça leur apporte moins maintenant, donc, de cultiver du cannabis. En revanche, les cartels, ils essayent d'exporter maintenant de l'héroïne. Et donc, comme les cartels veulent de l'héroïne, les paysans mexicains, ils plantent du pavot. Forcément.
On les a forcés à le faire.
Oui. Forcés ou incités fortement.
Incités fortement. Si vous avez regardé les documentaires sur le capitalisme qui sont passés sur Arte, là, en 6 volets, il y a eu un soir, là, où il parlait beaucoup de ça, justement, au Mexique. Des producteurs d'avocats qu'on a un peu incités fortement, voire plus qu'incités, à produire autre chose que des avocats, en fait. Puis pas que des avocats, enfin bref, tout un tas de cultures qu'on a changées, qu'on a mis du pavot, quoi, par exemple.
Ah voilà, c'est l'offre et la demande de toute manière. Donc tout ça pour dire que les paysans, ils se sont reconvertis, ils essayent de s'adapter. Alors de gré ou de force, c'est un débat, mais ça, il faudra aller voir sur place pour en savoir plus. Et la deuxième chose, après, c'est les trafiquants, donc eux se sont adaptés, ils font... un petit peu plus d'héroïne et moins de cannabis. Et puis par contre, ils en font dans les deux sens maintenant, parce qu'ils importent donc de l'herbe américaine qui est de meilleure qualité pour la vendre aux riches mexicains.
Pour la revendre à des Mexicains en tout cas. Et plus cher que le cannabis mexicain, parce que le cannabis américain est de meilleure qualité.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Voilà, voilà. Alors, tout ça pour dire quand même que... C'est pas dans l'article, mais j'en vois déjà qui disent « Ouais, vous voyez, ça a pas fait tomber les cartels, du coup, il faut revenir sur la légalisation. » Moi, je trouve que ça sous-entend un peu tout ça. Enfin, pas là dans l'article, mais ça va pas tarder à sortir, ça.
Ouais, ça sera un petit peu tiré par les cheveux, quoi.
Parce que...
C'est pas parce que c'est pas légalisé, c'est pas parce qu'il y a trois États qui ont légalisé.
Oui,
On voit en plus par contre que ça a des effets tout de suite.
Exactement.
Et que ça oblige les mafias donc à
revoir leur stratégie.
À revoir leur stratégie.
C'est clair.
Si on légalise toutes les drogues, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire du coup.
Mais mais t'as super raison. Effectivement, il faut pas réduire. Enfin, il faut pas dire que c'est légalisé. En fait, c'est t'as raison. C'est juste dans trois États. Et en tout cas, c'est pas comparable à ce que serait une légalisation au niveau international ou même au niveau national dans tous les États-Unis, en fait. Effectivement, ouais. Voilà. Et il y a un autre truc aussi qu'on entend régulièrement un peu partout, hein, même en France, de la part des prohibitionnistes qui disent oui, si on légalise, les trafiquants se mettront à vendre des produits plus dangereux. Ben c'est pareil, c'est un peu ce qu'on pressent en lisant cet article, même si c'est pas ce que veut dire le journaliste, mais en tout cas ça va donner du grain à moudre aux prohibitionnistes qui sont pour le statu quo, en fait. C'est que justement, dans l'article, ça fait pas tomber les cartels et ils changent de produit, ils vendent de l'héroïne. Mais encore une fois, on peut pas voir ça comme une conséquence de la légalisation du cannabis, alors qu'en plus, elle se fait dans trois États. Je pense que si la légalisation prend une ampleur beaucoup plus vaste, je suis pas certain que les trafiquants rencontre un franc succès commercial en inondant le marché avec de l'héroïne ou d'autres produits, quoi. Je pense pas, mais vraiment pas.
Tout à fait.
À voir pour la suite. Mais
voilà, autre sujet qui nous inquiétait un tout petit peu, c'était l'Uruguay. Vous savez, ce cher pays qui a légalisé
le cannabis il y a 2 ans, et qui est en train de le mettre en pratique cette loi.
Voilà,
ça sera pas avant le courant de l'année prochaine, hein. Enfin d'ici quelques semaines en fait.
Voilà, c'est en cours. Hein. Et donc il y avait des élections, donc c'est Monsieur Vasquez qui a succédé donc à Mujica et qui a donc gagné les élections. Alors Mujica, là-bas on peut pas se représenter à sa succession.
Mais on
peut se représenter, voilà, la fois d'après.
Voilà, donc c'est ce qu'avait Vasquez.
Voilà, Vasquez avait laissé la main à Mujica et Mujica laisse la main à Vasquez. Mais c'est ce que font Poutine et Mandalay.
Medvedev.
Et Medvedev, voilà. Voilà.
Par contre, connaissant un peu Mujica, il y a peu de chances que lui se représente après Vasquez. En 2019 ou 20, je sais pas. Je pense que Mujica, il se représentera pas. Jamais, quoi. Enfin...
Voilà, bon, en tout cas, Vasquez, lors de son premier mandat, étant un cancérologue, a marqué les choses par une bataille féroce contre le lobby du tabac
en 2006.
Le lobby du tabac et contre donc l'usage du tabac dans les lieux publics. Il a fait mettre jusqu'à 80% du paquet de cigarettes recouvert de messages d'avertissement.
Ce que veulent faire en Europe un certain nombre de...
Voilà, et donc à l'époque, il parle d'un procès qu'il y avait eu entre Philippe Maurice et donc et l'État uruguayen. Je ne sais pas ce qu'il a donné, ils n'en disent pas beaucoup plus.
Ben, Philippe Maurice demandait 25 millions de dollars de dédommagement. Mais effectivement, on ne sait pas le résultat. En tout cas, peut-être que c'est toujours en cours. Hein.
Il devait toujours être en cours, tout à fait. Surtout vu les sommes engagées. Voilà, donc ça semble bizarre que ce président-là qui a combattu les cigarettes, soit pour l'usage du cannabis. Mais d'un autre côté, souvenez-vous, nous avons un célèbre avocat en France, Maître Caballero, qui a été l'un des pourfendeurs du tabac et contre l'usage du tabac dans les lieux publics. Et donc, il y a bien, et qui était, lui aussi, par ailleurs, a fait droit de la drogue et plaide aussi pour un changement de la législation sur le cannabis.
Voilà. Alors.
Donc, comme quoi, ce n'est pas forcément.
Cette idée de recouvrir l'intégralité du paquet de cigarettes de messages de prévention et d'avertissement sanitaire. Je ne sais pas qui a inventé cette idée, mais en tout cas, c'est le projet de Caballero, en fait, qui date d'il y a plus de 20 ans, hein, déjà. Donc, je ne sais pas si l'Uruguay a repris cette idée ou si Enfin, je pense que c'est plutôt un collège de personnalités qui combattent l'industrie du tabac qui a un peu mis au point cette idée, mais en tout cas c'était cette idée qui était défendue par Caballero. Et en partir de 2002-2003, lorsque vous avez vu apparaître des photos avec des gros messages d'avertissement, voilà, c'est une idée de Caballero. Et en tout cas, l'Uruguay, elle, est allée encore plus loin, parce que finalement, ils ont vraiment mis en application ce projet de faire en sorte que sur le paquet, il reste plus grand chose au niveau marketing, quoi, au niveau de la marque et du logo. Et en tout cas, c'est ce qui progressivement devrait arriver aussi en Europe.
Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette loi ? C'est qu'elle est complexe et ambitieuse. Elle instaure trois modes d'accès au cannabis, via l'autoculture, via l'adhésion à un club ou l'achat en pharmacie. L'usager peut choisir qu'un seul de ces modes. Mais dans tous, il doit s'inscrire dans un registre national. Donc, c'est ce qui gêne un petit peu, parce que les gens ont l'impression d'être fiché. L'État va savoir qui consomme des drogues et aura la possibilité de réhabiliter les toxicomanes selon qui passe au pouvoir. Donc voilà, ça c'est la seule chose qui gêne et qui fait peur dans cette loi. Mais en tout cas, on peut aussi en vendre en pharmacie dans la limite de 40 grammes par mois et par personne, donc un tout petit peu plus d'un gramme par jour.
Alors oui, sinon, ce qui inquiète quand même un certain nombre de personnes là-bas, ou pas que là-bas d'ailleurs, c'est que justement ce président Vasquez qui se bat contre le tabac peut-être pourrait envisager de ne pas rendre applicable la loi sur le cannabis. D'après ses premières déclarations, visiblement
ça ne sera pas le cas.
Ça ne serait pas le cas pour l'instant, en tout cas. Même si 2/3 des Uruguayens étaient contre la loi de légalisation, hein. En tout cas, même s'il parle de corrections qui seront nécessaires, M. Vasquez serait quelqu'un qui ne reviendrait pas sur les engagements pris par l'administration précédente, d'autant plus que c'est son propre camp politique. Hein, le Frente Amplio, c'est le même parti, en fait, que Mujica. Voilà. Il introduirait éventuellement des réformes marginales dans la régulation, mais selon cet observateur, qui dit « Je ne crois pas qu'il y aura des modifications très significatives de la politique, sauf s'il fait face à de gros problèmes pour l'application.
» Voilà. Pour l'instant, la loi est là et ce ne sera pas facile de l'abroger. Et voilà, c'est une très bonne chose. En tout cas, c'était des résultats qui nous inquiétaient un petit peu pour savoir ce qui allait se passer en Uruguay.
Je pense qu'on peut être inquiet quand même.
Oui, mais bon, c'est quand même positif, c'est déjà pas...
Les déclarations des politiques, ça vaut ce que ça vaut.
Ce n'est pas quand même ceux qui sont de droite et qui sont totalement... et qui étaient opposés à cette loi.
Ouais, mais bon, sur la question des drogues, et pas que sur celle-là, malheureusement, qu'on soit de droite ou de gauche, on peut s'attendre à tout de la part des politiques, et que souvent c'est un peu des cas, des individualités, des personnalités fortes dans les partis qui font passer des lois sur ces sujets, en fait. Je suis pas sûr que en France, si on n'avait pas eu une Simone Veil, je suis pas certain que la loi sur l'avortement ait encore été votée.
Ni une Taubira pour faire passer
le mariage pour tous. Ouais.
Pour le mariage pour tous.
Exactement.
Voilà. Donc, c'est sur là-dessus qu'on va se.
Ouais, on parlera pas de l'interview de Rock, du professeur Rock et de Marc Kirsch.
On y reviendra, il est très intéressant, ouais. Il fait 3 pages, donc de toute manière on le survolerait, ça serait dommage.
Mais, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver cet article, http://lettre-du-milieu-cdf, ça veut dire collège de France.revue.org/288. Voilà. Donc, vous tapez sinon dans Google ou dans un autre... moteur de recherche Rock Collège de France, vous trouverez peut-être l'article. Voilà.
Eh ben, salut à toutes, salut à tous, chers auditeurs,
chères auditrices. Pas de chasseur de son ce soir, malheureusement. Il s'est fait enlumer.
Nous avons essayé d'attendre, mais ça n'est plus possible.
Voilà. Il a toutes nos salutations pour finir quand même cette émission réalisée par les bénévoles du Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais, que vous pouvez joindre par téléphone au 06 11 53 10 07. par mail cirque-lyon@no-log.org, par voie postale, Cirque Lyon BP 93043 69605, Villeurbanne Cedex, et http://www.cirque-lyon.fr. Voilà.
Allez.
Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, et à lundi prochain pour un nouveau Cannabis Circus. Au revoir.
Salut à toutes, vaporisez bien, ciao.